Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal avec Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité, assistance aux sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo et l'enterrement des victimes, ainsi en a décidé la délégation gouvernementale conduite à Goma par le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda. Le désengorgement des prisons au menu de l'échange d'hier ici à Kinshasa entre la ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature. Rose Mutombo a recommandé d'accélérer les traitements de certains dossiers qui sont soumis aux cours des tribunaux. Notre invité, c'est le coordonnateur humanitaire adjoint en RDC, Diego Zoria, s'exprime sur la situation humanitaire qui prévaut à Beni au Nord-Kivu et appelle à une solidarité internationale pour assister les déplacés en proie à l'insécurité. Madame, Messieurs, bonsoir. L'assistance aux familles sinistrées de l'éruption volcanique de Nyiragongo et l'enterrement des victimes. Ainsi en a décidé la délégation gouvernementale conduite à Goma au Nord Kivu par le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda Kourenga. Le point de la situation avec vous, Gabriel Wamenya.
L'une des plus grandes décisions du gouvernement prise juste après l'éruption du volcan Nyiragongo ce week-end, c'est l'enterrement en toute dignité de l'ensemble des personnes qui ont péri pendant l'éruption. Le gouvernement met aussi à la disposition de toutes les familles sinistrées et identifiées un lot de 40 000 tonnes ondulées. Une assistance humanitaire dont la nature n'a pas été révélée à la presse est aussi prévue aux victimes, a affirmé le ministre de la Santé, Mbougani Jean-Jacques.
Nous avons retenu différents points. Il s'agit en priorité d'assister les personnes qui ont perdu la vie en leur octroyant un enterrement digne. Nous avons décidé d'octroyer une assistance de 40 000 tolls aux familles identifiées.
Par ailleurs, la délégation a ordonné immédiatement la paye de 3 mois de salaire de tous les agents de l'Observatoire volcanologique de Goma. Une autre grande décision prise par le gouvernement, c'est la réhabilitation immédiate du réseau d'eau de la régie des eaux endommagée par la lave pour prévenir les maladies diarrhéiques dans les quartiers les plus touchés par la lave. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Au moins 130 000 enfants ont été séparés de leurs familles pendant l'éruption volcanique de Nyiragongo samedi soir. Seuls 300 enfants ont été remis à leurs parents respectifs par les autorités locales, alors que des milliers d'autres enfants ne sont pas retrouvés selon la division provinciale des affaires sociales. Des précisions avec Sifa Magrou.
Tous ces enfants se sont égarés lors de la débandade de samedi dernier pendant l'éruption volcanique. La chef de division des affaires sociales au Nord Kivu lance un appel à toute la population de la région afin que tous ceux qui gardent encore les enfants les signalent aux structures habilitées, notamment la Croix-Rouge, la DIVAS, Domiti Larusimbuka, chef de division des affaires sociales.
Ces enfants sont enregistrés à partir de Minova, Bweremana, Chacha, Saki et Goma. Sans pouvoir oublier qu'il y a aussi d'autres enfants qui ont pu traverser la frontière. Le CICR va s'en occuper avec le CICR Kigali, avec la Croix-Rouge rwandaise et la Croix-Rouge congolaise.
Certains enfants ont connu des accidents divers dans l'errance par manque de structures d'accueil. Il ajoute que jusque-là, environ 250 enfants sont hébergés dans les familles provisoires en attendant de retrouver leurs parents. Parmi eux, 4 enfants de moins d'une année et le plus jeune de tous n'a que 3 mois. Ici, les cris d'alarme des parents désemparés. Je viens chercher mes 3 enfants, 2 garçons et une fille. Moi, j'ai perdu 7 enfants, la moins âgée a 3 ans. Nous étions encore au marché. Goma, Sifa Magoro, Radio Kapi.
Et puis, 10 quartiers de la ville de Goma ne sont pas desservis en eau potable. Le directeur provincial de la régie des eaux affirme que le grand réservoir de 5000 mètres cubes et d'autres matériels ont été endommagés par le éruption volcanique de Nyiragongo. David Angoyo estime à plus de 10 millions de dollars américains le coût de la réparation des installations sur la colline de Bouchala. Il est au micro de Bernard Denyangui.
L'éruption du volcan de Nyiragongo a suivi presque les mêmes itinéraires qu'il y en avait en 2002. Et c'est dans ces mêmes quartiers collinaires qui sont très loin du lac où se pose la problématique d'accès en eau potable. Ils seront en difficulté parce que dans son passage, les laves ont réussi à causer des dommages ravagés. Notre site important qui est plus au nord dans les territoires de Niragongo, ce site-là s'appelle Bouchara qui contient trois grands réservoirs. Sur les 6400 m3, nous venons de perdre rien qu'un module important de 5000 m3. Il ne s'est pas arrêté là en descendant. Les laves se sont déposées sur un tronçon avant d'entrer au niveau du réservoir d'environ 1200 mètres de tuyaux en plastique. Et ce qui fait que l'alimentation en eau potable dans ces vastes quartiers de la ville Goma, partie nord, est coupée. Le coût est énorme. On est parti sur une estimation d'environ 10 millions $200 américains. C'est vraiment un problème, une urgence qui demande une attention et l'implication à tous les niveaux.
David Angoyo assure que des techniciens de la régie des eaux sont à pied d'œuvre en ce moment pour alimenter provisoirement les quartiers Mabanga Nord, Virunga, Katoyi, Kasika, Majengo, Kahembe, le centre-ville de Goma, Bujovu, Munigi, Turunga et Bouchala. Nord Kivu encore, le parc national de Virunga suspend les activités touristiques suite à l'éruption du volcan Niragongo. Dans un communiqué publié lundi après-midi, la direction de ces sites du patrimoine mondial indique que cette décision est motivée par la fermeture temporaire de l'aéroport de Goma. À Goma, Bernard Denyangi.
Selon ce communiqué du parc national de Virunga, cette mesure de suspension des visites touristiques concerne plus l'ascension sur le volcan Niragongo. Cela au vu notamment de nombreuses fissures apparues le long des flancs de cette montagne volcanique. Ce qui estime la direction de ces sites aura immanquablement un impact sur l'activité touristique dans la région, le sommet du volcan Niragongo étant une des destinations phares du parc. L'ICSN indique aussi que depuis l'éruption du volcan, plusieurs annulations des réservations pour les semaines à venir ont d'ores et déjà été reçus par la direction du parc. Il faut ajouter aussi que la coulée de lave du volcan a coupé la route nationale numéro 2 reliant Goma Kiwanja Lubero Butembo sur une longueur d'au moins 800 mètres au niveau de Niragongo, ce qui rend cette route impraticable jusqu'en nouvel ordre, coupant ainsi le quartier général du parc à Rumangabo d'un accès routier à la ville de Goma. Signalons que cette suspension intervient alors que le tourisme dans le plein vie était déjà ralenti suite à la succession de crises sanitaires, Ebola, Covid-19, etc. Mais aussi le kidnapping des deux touristes en 2018 et récemment la proclamation de l'état de siège au Nord Kivu, Goma, Bernard Denyangi, Radio Kapi.
Et puis le secrétaire général des Nations Unies s'est dit attristé par les pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels causés par l'éruption volcanique de Niragongo. Dans une déclaration faite lundi à New York, le porte-parole d'Antonio Guterres fait remarquer que cette catastrophe naturelle survient au moment où les besoins humanitaires augmentent dans la région, alimentés par l'insécurité et exacerbés par la pandémie du coronavirus. Les Nations Unies et la communauté humanitaire s'emploient à soutenir le gouvernement congolais pour assister les sinistrés, n'est-ce pas, Alain Rongmouchige?
La MONUSCO a également mobilisé ses moyens aériens pour suivre la situation et travaille avec les autorités pour s'assurer que la population est tenue informée de tous les développements connexes. Lundi, le directeur de l'Observatoire volcanique de Goma, Kasereka Mainda, expliquait dans une vidéo publiée par la MONUSCO que les coulées de lave avaient cessé mais que les tremblements de terre continuent. Plusieurs villages ont été affectés suite à l'éruption du volcan Niragongo à l'est de la RDC. Il est à craindre que des nombreuses personnes soient sans abri, a déclaré lundi l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR qui mène avec ses partenaires une mission pour évaluer les besoins humanitaires dans les zones touchées. Les équipes du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF sont mobilisées pour réunir les enfants séparés de leur famille alors qu'ils fuyaient l'éruption du volcan Niragongo. Le bureau de l'Organisation mondiale de la santé OMS en RDC a réitéré son engagement à apporter l'appui nécessaire aux autorités pour évaluer rapidement les besoins et sauver des vies. Par la voix de son porte-parole, le secrétaire général de l'ONU a présenté ses plus sincères condoléances aux familles des personnes touchées, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de la RDC.
Merci Alain Irungumushige pour ces précisions. Et puis la réouverture de l'aéroport de Goma au Nord Kivu, c'est l'une des priorités dans le cadre de l'assistance aux victimes de l'éruption volcanique de samedi dernier.
Et ses conséquences, cette option a été levée après la réunion du cadre national de concertation qui a été présidée hier lundi par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge avec les acteurs du secteur conduit par le coordonnateur humanitaire en RDC. Un reportage de Billy Valutumba.
La réunion a eu comme objectif l'analyse de la situation qui prévaut actuellement à Goma en vue d'apporter à la population une assistance selon les priorités. C'est en l'occurrence l'abri pour les populations, l'assainissement, l'éducation et les déplacés. David Maklaklankar.
On a parlé de la nécessité de restaurer les liens entre la ville de Goma et Rutshuru parce que la lave a bloqué la route et la nourriture ne peut pas arriver dans la ville. On a parlé aussi des besoins des populations pour l'assainissement, les dangers d'avoir une flambée des choléras qui existent dans la zone. Pour nous, la communauté humanitaire, une priorité maintenant, c'est la réouverture de l'aéroport de Goma pour que nous puissions livrer l'assistance de Kinshasa à Goma.
Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, souligne que toutes les dispositions concrètes dépendent des autorités de l'aviation civile pour permettre aux humanitaires d'amorcer leurs actions.
L'aéroport a été fermé parce que c'était dans la zone pratiquement qui a été touchée. Dès que les conditions météorologiques et climatiques le permettront, les avions pourront atterrir. Déjà, il y a une autorisation qui a été donnée pour l'aéroport de Kavumu. On espère que dans les jours qui viennent, ça le sera pour Goma pour permettre à l'assistance humanitaire d'atteindre nos populations.
Le gouvernement, explique Patrick Muyaya, ne laissera rien au hasard pour faciliter les partenaires humanitaires et tous les autres acteurs de bienfaisance à mener toutes les opérations d'assistance nécessaires.
Au Sud Kivu, pendant ces temps, les atterrissages et les décollages sont de nouveau interdits à l'aéroport de Kavumu. C'est suite aux impacts négatifs de l'activité volcanique qui affecte dangereusement à nouveau cet espace aérien, annonce le ministre des Transports et Voies des Communications, Chérubin Okende, dans un communiqué publié ce mardi à Kinshasa. À Bukavu, Emmanuel Elmejo Kabini.
L'aéroport de Kavumu au Sud Kivu restera de nouveau fermé au trafic aérien jusqu'à nouvel ordre. Cela à l'issue de l'évaluation de l'évolution de la situation aérienne découlant de l'éruption du volcan de Nyiragongo au Nord Kivu. C'est selon les analyses du bulletin spécial du Centre de surveillance de Toulouse, les impacts négatifs de l'activité volcanique avec une extension de fumée qui s'étend vers le sud-ouest et affecte à nouveau l'espace aérien de Bukavu. Le ministre des Transports et Voies des Communications, Chérubin Okende, qui signe ses communiqués, charge la régie de voies aériennes RVA d'en informer les navigants dans l'espace aérien centré sur les balises de Goma et de Bukavu. Pour le moment, et en attendant un nouvel avis du comité de crise dans les 24 heures, le gouvernement dit maintenir la fermeture de l'aéroport de Goma, conclut le ministre Okende Senga. Cette situation vient rendre difficile et impossible la circulation entre la population du Grand Kivu et du reste du pays. La communication par voie routière étant elle aussi difficile d'une province à une autre. Emmanuel Elamejiu Akabedi, Bukavu Radio Okapi.
Sud Kivu, encore d'importants dégâts matériels sont causés par une nouvelle montée des eaux du lac Tanganyika sur le littoral entre Kilomoni et Kalundu vers le port public d'Uvira. Cette situation a perturbé les activités hier au quartier général de la MONUSCO où des murs construits par les ingénieurs chinois sont détruits par les vagues du lac Tanganyika. À Uvira, une correspondance de Fiston Goma Mayabala.
Les eaux ont pénétré jusqu'à près de 50 mètres à l'intérieur des installations de la MONUSCO. Les systèmes informatiques électriques ont été déconnectés pendant plus de 3 heures pour éviter les dégâts. À la frontière des Kavuvira, motos et piétons ne peuvent pas traverser l'espace entre la barrière de la DGDA et les postes de la DGM en face du Burundi. Les eaux du lac et les eaux des marais Nyangara et Kaorooro se sont embrassées sur cette route. À Kilomoni, le centre hospitalier Mario Vanucci est complètement inondé. Le matériel et équipements de cet hôpital ont été déplacés vers le centre Maendelo côté Nyangara. Les dégâts sont énormes à Ouragan Beach, à Karibu Lodge, au Grand Hôtel 3 étoiles de Bahari Beach, au Vilai Lac et dans d'autres plages les plus branchées de la ville. À Kasenga, les ports privés du Feki Dogé et celui de l'ingénieur Gabi, les concepteurs de l'hydravion à coque, sont tous engloutis par les eaux. Les eaux du lac ont progressé sur les avenues jusqu'à la route nationale. Côté Kimanga et Nyamianda, l'évêché est sous l'eau. L'auberge Eden City, l'église El Shaddai, les grands hôtels Plage d'Or de Kankezo sont sous une abondante eau. Tous ces sites sont abandonnés, signalant qu'aucune précipitation n'a été observée ce jour-ci dans la région, ni sur les montagnes. D'Ouvira, Fiston Goma Mayabala, Radio Okapi.
Justice à présent, le désengorgement des prisons était au menu de la séance de travail tenue hier lundi à la Cour constitutionnelle ici à Kinshasa entre la ministre d'État chargée de la justice et le Conseil supérieur de la magistrature. Rose Mutombo a recommandé aux magistrats d'accélérer au plus vite le traitement des dossiers soumis aux cours des tribunaux. Jeff Ngoy.
La ministre d'État demande au CSM d'instruire les parquets à envisager en conformité avec la loi des mesures d'assouplissement pour toute détention préventive ayant excédé 3 mois ou d'envoyer les dossiers en fixation. À défaut d'ordonner la libération des détenus qui n'ont aucun titre justifiant leur présence dans un établissement carcéral. Pour les détenus préventifs déjà à la disposition des cours et tribunaux, Rose Mutombo recommande la célérité. Croit-elle avoir été comprise? Voici son compte-rendu.
On a eu à échanger sur la situation sociale des magistrats, sur les procédures, sur la discipline des magistrats, ainsi que sur la situation carcérale qu'on trouve dans nos différentes prisons. Je crois que les uns et les autres ont pris l'engagement de faire ce qui est à leur droit.
Toujours dans le cadre du désengorgement, la garde des Sceaux annonce pour les prochains jours le transfèrement de certains pensionnaires de la prison centrale de Makala à Luzumu et de la prison militaire de Ndolo à Angenga. S'agissant du social des magistrats, la ministre dit s'impliquer dans la poursuite de l'examen du cahier des charges des magistrats afin d'apporter de manière progressive des solutions à leurs attentes.
Autre nouvelle en plus bref, à peine ouvert ce mardi matin, le procès des massacres de Yumbi a été renvoyé au 6 juillet prochain. Lors d'une brève audience publique d'introduction à la prison militaire de Ndolo, la haute cour militaire a décidé de la remise à la demande des parties pour leur permettre ainsi de s'imprégner des dossiers des prévenus, accéder également aux procès-verbaux afin d'en avoir la maîtrise avant l'instruction proprement dite.
Actualité internationale.
Un coup d'État inacceptable. Les dirigeants européens ont condamné l'arrestation du président malien et son premier ministre. Déclaration faite ce mardi par le président français Emmanuel Macron à l'issue d'un sommet européen. Il a plaidé pour la tenue urgente d'une réunion du Conseil de sécurité à New York. Un accord a été obtenu en Somalie ce mardi pour organiser des élections inclusives, crédibles, libres et équitables. A annoncé mardi au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York le chef de la diplomatie somalienne. Mohamed a précisé que les 3 questions clés d'achoppement ont abouti à un compromis.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur humanitaire adjoint à RDC, Diego Zoria, s'exprime sur la situation humanitaire qui prévaut à Beni au Nord Kivu et appelle à une solidarité internationale pour assister les déplacés en proie à l'insécurité. Il s'entretient avec Martial Papimukeba.
Diego Zorila, bonjour.
Bonjour, Martial.
Vous venez de séjourner à Beni. Parlons de la situation humanitaire dans la région. Comment vous évaluez cette situation actuellement à Beni, Butembo, Lubero?
Le territoire de Beni reste un des territoires le plus affectés, le plus impactés par le besoin humanitaire dans toute la République du Congo. Il y a près de 900 000 personnes déplacées dans le territoire de Beni à cause des affrontements armés et à cause de différentes situations. Rien que entre le mois de novembre et maintenant, il y a près de 200 000 personnes qui se sont déplacées sur le territoire de Beni. Donc ces personnes-là souffrent de carences énormes. Et moi, je plaide pour que la communauté humanitaire puisse faire son travail, qui est celui de venir en aide de cette population. Maintenant, cette aide n'est jamais suffisante. Nous, ce qu'on veut, c'est que la paix revienne. C'est notre plus grand souhait. Mais entre-temps, il faut qu'on puisse continuer à venir en appui à la population vulnérable qui en a besoin, avec les programmes habituels d'assistance alimentaire, de nutrition, d'accès à l'eau, d'accès aux latrines, de santé, de protection.
Dans la région de Beni, il n'y a pas vraiment de camps de déplacés. Et la plupart des déplacés vivent dans des familles d'accueil.
C'est correct.
Comment font les humanitaires pour les assister?
C'est bien sûr plus difficile, parce que c'est plus difficile de les identifier, mais il y a des mécanismes d'enregistrement et d'identification qui, évidemment, peuvent avoir des failles, parce qu'ils se basent sur la coopération des comités de déplacés, des autorités locales, des différentes personnes qui connaissent la réalité de ces communautés. communauté pour réaliser des enregistrements. C'est comme ça qu'en janvier, à la fin janvier, moi j'étais ici pour justement parler au niveau national des besoins de la population vulnérable du territoire de Béni. Et NRC, une des ONG, avait fait avec le département des affaires sociales de la mairie un enregistrement de 11 000 ménages déplacés sur le territoire de Béni et qui étaient dans des familles d'accueil. Et j'ai rencontré aussi les familles d'accueil et j'ai rencontré les personnes qui étaient accueillies dans ces familles d'accueil. C'est plus difficile, bien sûr, que dans un camp de déplacés. Parfois, les conditions de vie dans ces familles d'accueil sont difficiles aussi, mais on essaye d'arriver avec de l'assistance qui est toujours insuffisante.
Êtes-vous au courant de la situation de plusieurs enfants déplacés qui n'ont plus accès aux écoles, mais également de plusieurs femmes enceintes qui n'ont pas accès facile aux soins de santé primaire?
Oui, je suis au courant de comment l'interruption de l'action humanitaire pendant plusieurs semaines à Béni, sur le territoire de Béni, a impacté non seulement la ville de Béni, mais aussi tout le territoire, parce que beaucoup de nos actions partent de Béni pour partir dans d'autres endroits. Et ceci s'est traduit dans la perte de vie, malheureusement. On a dû interrompre des programmes essentiels de nutrition des enfants. On voit maintenant l'éducation avec des écoles qui ont été pillées, des écoles qui ont été abandonnées, et puis des écoles qui ont été occupées par des déplacés. On voit maintenant comment le calendrier scolaire est complètement altéré. On n'a pas pu faire les distributions d'aliments qu'on avait prévues et qu'on voulait faire avec l'identification de bénéficiaires sur le territoire de Mabalako et aussi ici sur la ville de Béni. Tout ceci, c'est conséquence de la paralysie de nos opérations qui s'est traduite dans la perte de vie humaine.
Et comment vous évaluez les besoins prioritaires des déplacés dans la région de Béni?
Tout dépend des situations. Il y a des déplacés qui sont en situation de retour. Ils ont besoin d'un appui pour le retour. Il y a d'autres qui sont dans une situation de premier déplacement et il y a d'autres qui sont là depuis il y a quelques mois. Typiquement, lorsqu'une population se déplace, il y a besoin d'un appui d'urgence. Couvrir les besoins des premiers deux mois en vivres, en articles ménagers essentiels, en accès à l'eau et en accès aux soins de santé, avec un suivi spécifiquement de la nutrition et des femmes enceintes pour qu'elles puissent accoucher. Ça, c'est les besoins les plus prioritaires typiquement. Mais typiquement, les déplacés qui sont en milieu urbain, ils ont besoin de cash parce qu'ils ont besoin de pouvoir subvenir à leurs besoins les plus fondamentaux dans un milieu urbain. Et ça, normalement, ce sont des services qui s'achètent.
Avez-vous suffisamment de moyens pour continuer d'assister ces déplacés?
La réponse est non. On a reçu l'année dernière 40% de l'argent qu'on avait demandé. C'est-à-dire que, donc, on avait demandé 2 milliards, on a reçu environ 800 millions, environ 40% de ce qu'on avait demandé. Pour cette année, les financements à l'heure actuelle sont environ à 11% et nous sommes déjà au mois de mai. Donc, justement, moi, mon plaidoyer auprès des bailleurs de fonds, c'est de continuer à donner les ressources. Ce que je voudrais, c'est que le gouvernement congolais puisse mettre des ressources pour l'assistance humanitaire de sa population. Ils essayent de le faire aussi, mais les ressources de l'État sont très limitées. Donc, il y a un appel à une plus grande solidarité envers les Congolais, parce que c'est la deuxième ou troisième crise humanitaire au monde. Et dans le Congo, moi, je fais un appel spécifique pour le territoire de Béni, parce que je sais que la population de Béni continue à attendre beaucoup d'un appui qui est nécessaire lorsqu'ils ont dû fuir leur territoire à cause de l'insécurité.
Diego Zorila, merci.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de Radio Okapi, le coordonnateur humanitaire adjoint en RDC, Diego Zoria, était interviewé par Martial Papimukeba. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 18h23. Continuez à suivre ces nouvelles sur les différentes plateformes numériques de Radio Okapi.